C'est une révolte.
Non, sire. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation !
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faut reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit groupir.
But alors, you are French ?
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Monsieur ! Un sarrasin !
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle.
Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et vous écoutez La Percée de l'Histoire pour cette 12e émission Portrait d'Histoire. Nous avons choisi d'accueillir pour cette émission Sophie Moisy, élue à la ville du Mans, au rayonnement de la ville, au jumelage et au patrimoine, et également Julie Bouillet, responsable des collections archéologiques des musées du Mans, attachée de conservation du patrimoine et commissaire général de l'exposition au pied du mur sur l'enceinte romaine du Mans. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans l'émission. C'est une première et ça fait extrêmement plaisir. Au programme de... Non, je ne vous ai pas présenté, pardon les gars. C'est vrai qu'ils sont là aussi, évidemment, pour cette émission. L'équipe de d'habitude, Salouane. Salut.
Bonsoir,
Salouane, comment tu vas? En même temps, très bien. Également Thomas, bonsoir Thomas, comment vas-tu?
Bonjour, ça va super.
Bah, super. Et également Gauthier, tout droit revenu de Lille il y a une semaine. Comment
ça,
vas-tu
ça
Gauthier?
Ça va très bien et toi?
Eh bien super, merci d'être tous là. Au programme de cette émission, on présentera donc rapidement vos parcours à toutes les deux. Et puis on reviendra en détail d'abord sur vos missions autour de la gestion et la mise en valeur du patrimoine. On parlera aussi rapidement peut-être du jumelage avec la ville de Tudela en Espagne, dans laquelle vous vous êtes rendu il y a quelques jours d'ailleurs, Sophie Moisy. Et puis bien sûr, on consacrera une grosse partie sur l'exposition au pied du mur, débutée depuis le 14 mai dernier. On peut peut-être démarrer tout de suite avec une présentation donc de vos parcours respectifs, Gauthier.
Bon, tout d'abord, Sophie... Baisse le son.
Attention à toi, pardon.
Pas de souci. Donc Sophie Moisy, donc vous êtes élue au Mans, dites-moi si je me trompe, hein, je vous fais une petite présentation. Vous êtes élue au Mans depuis 2008, donc après un bac S au lycée Yourcenar, vous avez effectué une licence d'économie à l'Université du Mans, puis un master 1 en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, donc à Paris, et enfin une deuxième année en droit public à Tours, en gestion des collectivités territoriales. Julie Bouillet, vous êtes responsable des collections d'archéologie des musées du Mans. Vous êtes titulaire d'une maîtrise d'histoire obtenue à l'université de Caen entre 2002 et 2005, puis d'un master 2 patrimoine et archéologie à Lyon 3, avec des recherches sur l'Occident romain notamment. Vous avez ensuite été responsable de différents musées en région lyonnaise pour commencer, puis au Mans avec le carré Plantagenêt, et enfin responsable donc, des collections archéologie des musées du Mans comme évoqué. Donc Sophie Moisy, tout d'abord, donc, si je ne me trompe pas, vous êtes entrée au conseil municipal du Mans avant de finir votre master. Pourquoi une carrière locale plutôt que nationale, alors que votre master 1 à Paris aurait pu penser le contraire?
C'est tout à fait ça. J'étais encore étudiante, effectivement. Donc, j'étais partie de Paris pour aller à Tours pour des questions de période électorale. Tours étant beaucoup plus près du Mans, il était beaucoup plus facile de rentrer en campagne électorale, de faire des allers-retours. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon master 2 à Tours. Et pourquoi pas de carrière nationale? Parce que je suis mancelle et que j'adore ma ville et que j'adore la servir.
Donc, pas de projet d'une future
réponse.
Carrière nationale?
Absolument pas. J'aime ma ville, je voulais la valoriser et je voulais justement qu'on arrête de dire, quand j'avais 23 ans à l'époque, que je voulais qu'on dise pas que les politiques sont toujours des gens qui ne ressemblent pas aux gens qu'ils dirigent. Donc je m'étais dit, c'est un gros sacrifice et je vous assure que c'en est un, parce qu'à 23 ans après, j'ai un métier aussi, actuellement. Je travaille comme chargée d'assistance chez Mondial Assistance, donc rien à voir avec mes études, vous voyez. Pour la simple et bonne raison que c'est pas facile d'embaucher une élue.
Ouais, c'est sûr. Depuis quand avez-vous une passion pour l'histoire? Si vous avez une passion pour l'histoire, le patrimoine en général, et d'où est-ce qu'elle vient?
Alors, j'ai une passion, oui. Maintenant, je ne suis pas une experte. J'ai été en charge pendant 12 ans, donc deux mandats du handicap. Et lors de cette nouvelle mandature, en 2020, Stéphane Le Foll a souhaité que je prenne un nouveau poste. Donc, je succède à Madame Jacqueline Pedoya, qui était avant l'adjointe en charge, donc au rayonnement de la ville, le patrimoine et le jumelage. Et je pense, moi qui ai fait Sciences Po un peu, une année, et puis qui a eu une formation dans le domaine de la gestion des collectivités, que ce ne sont pas forcément les experts qui sont les meilleurs dans leur domaine et que pour pouvoir justement œuvrer dans un domaine, c'est plutôt bien de s'entourer de gens qui sont savants, donc les experts. C'est bien de s'entourer des gens qui iront voir donc les citoyens, et puis de fédérer tout ça. Et donc, c'est pour ça que je suis passionnée et que j'adore. J'adore, de façon générale, les gens passionnés. Donc, je suis entourée de passionnés, c'est super.
Et puis, en plus, au Mans, avec cette chance qu'on a d'avoir un patrimoine assez riche, quoi.
C'est vrai que, particulièrement. Bien sûr. C'est vrai qu'on est plutôt gâtés à ce niveau-là. Quelles ont été les différentes réalisations que vous avez pu mener, justement, au conseil municipal, donc depuis 2008 ?
Alors, en charge du handicap, j'ai fait beaucoup de choses et notamment, j'ai touché un peu le patrimoine parce que, justement, je souhaite que ce patrimoine soit accessible au plus grand nombre, à commencer par les personnes qui sont empêchées. Donc, on a travaillé dès le départ avec le service patrimoine. On a mis en place un site qu'on a financé, nous, la ville, avec l'APHGH, qui est une association qu'on connaît bien au Mans, hein, qui s'occupe des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et l'idée était de créer un site accessible, aux personnes sourdes. Donc, on avait des guides conférenciers qui présentaient nos bâtiments, la cathédrale par exemple. On a eu la crypte dont Julie pourra parler. Et donc, vous aviez une personne qui faisait donc la présentation et aussi signée par un guide conférencier sourd. Donc, on a fait venir au Mans qui. C'est assez unique, hein. À l'époque, c'était vraiment. On était très en avance. On continue de l'être parce qu'on avait travaillé ça. On avait aussi fait des visites en langue des signes aussi de différents chantiers, les jardins de la cathédrale et autres. Donc, voilà, l'idée était déjà, moi, dans mon secteur à l'époque, de faire en sorte que le patrimoine soit accessible. Alors, maintenant que je l'ai en charge, c'est bien plus étendu parce que c'est génial d'être avec des jeunes comme vous, mais il faut qu'on arrive encore à faire plus venir des jeunes parce que, comme je dis tout le temps, c'est pas parce que les experts connaissent qu'il ne faut pas croire que les citoyens ne s'emparent pas de leur patrimoine. Et comme je dis toujours, l'enceinte romaine, certes, on va en parler tout à l'heure et Julie pourra le dire, elle sert aussi de décor à nos danseurs de breakdance et aussi ceux qui font du parcours.
Ouais. D'accord, très bien. Je me tourne vers vous, Julie Bouillet. Question tout simple, mais pourquoi avoir choisi la ville du Mans ?
Alors, je n'ai pas vraiment à l'origine choisi la ville du Mans. Disons que des postes dans les musées, il n'y en a pas tellement en France, en fait. Donc, j'ai postulé parce que moi, j'étais dans la région, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lyonnaise. Et je voulais absolument revenir dans l'ouest de la France. Et j'ai postulé au Mans, notamment, mais sans connaître du tout la ville. Et donc, je l'ai découvert après avoir été embauchée, en fait, ici dans les musées. Et ça a été une très belle découverte parce que j'étais comme, malheureusement, un certain nombre de Français, à savoir que je n'avais pas forcément une image super positive, ou en tout cas, je ne connaissais pas la ville que j'associais aux 24 heures du Mans et Oriette.
Comme beaucoup de monde, je pense.
Oui, je pense. Hein, j'avais une vision vraiment... Je ne m'étais jamais arrêtée. Hein. Et puis, j'ai découvert assez vite, et même très, très rapidement, parce que j'arrivais dans les musées, l'enceinte, le centre historique, la cathédrale, le fait que c'était une ville extrêmement agréable pour y vivre, pour une famille, enfin voilà, donc du coup, maintenant j'en fais également la promotion, mais à l'origine, c'était vraiment dans un cadre très professionnel, c'est-à-dire que je cherchais des missions qui correspondaient au concours que j'avais eu, etc.
D'accord. On imagine que vos recherches avec le centre d'études et de recherche sur l'Occident romain donc vous ont inspiré, vous inspire peut-être encore à l'heure actuelle. Avez-vous étudié le cas du Mans durant votre master, durant vos études ?
Pas forcément. C'était moi, j'étais vraiment sur l'urbanisme de Rome antique et puis sur le culte des animaux en Égypte ancienne. Enfin bon, c'était pas vraiment ce sujet-là. Ce qui était certain, c'est que j'étais passionnée d'archéologie. J'avais travaillé dans un musée d'archéologie du côté de Caen parce que j'ai fait mes études d'abord à Caen. Donc l'archéologie à l'époque romaine, c'est vraiment mon domaine. J'ai pas choisi le Mans, mais j'ai choisi le musée d'archéologie du Mans. Vous voyez, d'accord, qui venait d'ouvrir. Avec sa spécificité, ses collections, son intérêt. Après, je suis quelqu'un qui est extrêmement curieuse, passionnée. Et donc, quand je suis arrivée, je me suis imprégnée complètement de l'histoire du territoire, de l'histoire de la ville, des collections. J'ai découvert les mailles plantagenées. C'est toute cette histoire particulièrement intéressante.
Est-ce que ça a été un petit coup de cœur Le Mans ou non, ou c'est juste...
Ah non, mais vraiment, oui, c'est pas une blague, en fait. C'est que, justement, quand on arrive au Mans, c'est tellement agréable. C'est-à-dire que ce que j'ai aimé, c'est le patrimoine, mais c'est aussi la ville, vraiment. Moi, j'adore tout faire à pied. Je trouve que c'est une ville qui est étendue, où on peut s'installer. J'ai rencontré plein de gens super, je me suis fait des amis. Enfin non, du coup, maintenant, je m'y plais. Je trouve que c'est une ville qui est accessible sur plein d'autres... à proximité de Paris, de Nantes, de Rennes, de Caen, donc moi je me suis installée là, mais il y a 13 ans maintenant.
D'accord, en quoi consiste exactement votre poste
Alors, mon poste aujourd'hui, donc je suis responsable des collections archéologiques. Ça veut dire que j'ai vraiment toute la gestion des dossiers de collection. Donc, quand on a des prêts, des dépôts, la conservation des œuvres. Donc, à l'origine, c'était plutôt uniquement sur le carré. Maintenant, ça se développe sur vraiment tous les musées. Et puis, j'ai aussi la gestion d'un pôle qui s'appelle Accueil et Communication. Donc, il y a une trentaine d'agents dans ce pôle sur l'accueil du public. Donc, quand les gens arrivent, la signalétique, la disposition des espaces, etc., la surveillance et la communication et la valorisation. En fait, on a restructuré les musées il y a 2 ans, donc avec la directrice Alice Gandin. Et avant, chaque musée avait son responsable. C'est pour ça que j'ai été responsable du Carré Plantagenet pendant plusieurs années. Et maintenant, on est mutualisé, donc on travaille plutôt par pôle. Et donc moi, j'ai ce gros pôle, plus la casquette gestion de collection, plus la casquette commissariat d'exposition.
D'accord, très bien.
Eh bien, justement, vous avez choisi une chanson, Julie Bouillet, qu'on va pouvoir mettre. On se retrouve juste après pour continuer la discussion. Enfin, vous en avez proposé plusieurs. Nous, on a choisi celle que vous écoutez en ce moment, Metronomy Right on Time, qui est plutôt bonne humeur. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on l'a choisie, parce qu'elle est assez sympa. Et je ne la connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissiez. Non,
pas du tout.
Bon, bah voilà. Et je n'ai pas activé vos micros en plus. On se retrouve juste après. Metronomy Right on Time. La percée de l'histoire.
Tiens !
Mais c'est pas vrai !
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi ?
Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Ah ouais ?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour sa 12e émission Portrait d'Histoire en compagnie de Sophie Moisy et Julie Bouillet qui nous auront raconté un petit peu leur parcours. Et on va maintenant parler un petit peu plus de patrimoine dans la gestion et la mise en valeur, n'est-ce pas Thomas?
Et on va commencer par se pencher un peu sur le jumelage, le récent jumelage avec la ville espagnole de Tudela. Et d'abord, une première question très simple, pourquoi ce jumelage?
On a une association sur le Mans qui s'appelle l'association Amigas, qui existe depuis plusieurs années, qui en 2018 a interpellé le maire en disant très justement que la ville du Mans n'était pas jumelée avec une ville espagnole, ça c'était vrai, et qu'en plus, aucune ville de la Sarthe ne l'était. Donc Amigas était vraiment intéressé par l'idée de lier le Mans avec une ville espagnole pour pouvoir tout simplement faire des échanges, puisque ce sont des personnes qui s'intéressent à la culture hispanique en général et ils avaient envie de parler avec des Espagnols, de pouvoir aller dans une ville amie et aussi de recevoir. Donc la demande est vraiment citoyenne et après on l'a travaillé avec eux.
D'accord, oui, parce que pour l'instant, les jumelages au Mans, donc on a Paderborn, évidemment, une ville en Roumanie, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, pas en Roumanie, non. On a Paderborn en Allemagne, Bolton en Angleterre,
notre ville.
Volos en Grèce, ça c'est pour l'Europe. Et ensuite, on a la ville amie au Japon qui s'appelle Suzuka, une ville amie en Chine, Xinjiang, si je dis bien. Et enfin, un jumelage solidaire avec la République Sahraoui, une République Sahraoui, le camp d'Aouza, pardon, et j'oublie Rostov-sur-le-Don en Russie.
D'accord, ok. Oui, en fait, la ville en Roumanie, ça n'a rien à voir. C'est avec,
Nanterre
avec... Non, Courbevoie.
Ah d'accord, je croyais que tu avais vu Nanterre aussi, parce qu'il y avait... c'est qu'on était allé voir Virgile, bref.
D'accord. Et qu'est-ce que la mairie, est-ce que la mairie espère quelque chose de ce jumelage?
Ah oui, beaucoup. Alors on vient d'officialiser samedi dernier donc ce jumelage à Tudela. Donc Tudela qui au début n'était pas le premier choix de l'association puisqu'ils nous avaient plutôt dirigé vers Pamplume. Pamplume pourquoi? Parce qu'ils sont jumelés avec Paderborn. Donc ça nous permettait déjà de faire du lien par rapport à nos vies jumelées existantes. Bon, Pamplume a été très clair lorsque le maire a écrit pour... envisager une éventuelle collaboration, la réponse était non.
C'est d'accord, bah,
voilà. Voilà. Donc de fait, nous voulions la Navarre parce que Monsieur le maire voulait vraiment qu'il y ait un lien historique, qu'on ne soit pas juste sur un jumelage classique. Et donc, on savait que Bérangère de Navarre était bien sûr de la Navarre. D'autres historiens locaux que vous connaissez sans doute, Gislain Bory.
Gislain Bory, bien sûr, grand spécialiste.
Voilà, tout à fait. Nous a dit qu'il était plutôt, qu'elle était plutôt sans doute née du côté de Tudela et pas forcément de Pamplume. Alors on avait pris Pamplume parce que c'était une plus grosse ville, ça ressemblait plus à Le Mans. Tudela est une petite ville de 55 000 habitants, donc en dessous de nous. En tout cas, le maire, quand on lui a proposé cette ville, il a été tout à fait emballé. Amigas, c'est eux qui ont fait tout le travail, donc c'est eux qui m'ont dit « allons vers Tudela », puisque Gislain Bory fait aussi partie de cette association Amigas. Et donc, on a reçu un super accueil. Ils étaient ravis de mettre en avant Bérangère, parce que c'est un petite bagarre là-bas, où est née Bérangère, Pamplune. Donc là, ils se sont emparés de cela. Et si vous avez vu un petit peu, effectivement, j'ai pas mal communiqué, mais ils ont créé une géante à l'effigie de Bérangère, qui est d'ailleurs très jolie pour certains, mais disons, on dirait une vraie Barbie. Bérangère est magnifique. Et donc, ils ont créé un géant à côté de son géant qui existait déjà, qui est Sanchez, son frère, qui lui, était... Donc, on a fait une très, très, très grosse cérémonie samedi dernier. Nous accueillons nos amis espagnols la semaine prochaine. Ils arrivent mercredi.
D'accord, ok, très bien. Il y a une question qui me vient là, comment on fait pour jumeler deux villes ensemble?
Eh bien, il y a le côté institutionnel, c'est-à-dire ce sont les maires qui vont prendre une charte commune autour de valeurs communes, de ce qu'ils veulent défendre. Donc nous, par exemple, avec Tudela, on a bien sûr dit que notre principal point commun était Bérangère et donc on voulait créer quelque chose autour de cette figure historique, mais pas que. Comme je dis toujours, les élus changent, les habitants et leur envie restent. Paderborn, c'est une histoire très très longue, vous savez que c'est le plus vieux jumelage et aujourd'hui, on a certains amis Manceaux connaît bien, qui vivent à Paderborn, c'est avant tout les citoyens qui font les jumelages. Donc si on n'avait pas des citoyens qui nous poussaient à le faire, nous, les institutions, on n'est pas grand-chose, en fait. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, j'étais accompagnée du président de l'association en question. Il était hors de question que j'y aille seulement d'un point de vue institutionnel. C'était aussi une demande du maire. Donc voilà, nous, on a besoin de... Que ce soit les habitants qui fassent leur projet. Et effectivement, on s'est rendu compte que Tudela, au-delà de Bérangère, ils ont un festival de street art, ils ont un festival de cinéma hispanique, comme nous en avons au Mans. On a même vu des fresques communes par des artistes communs ici au Mans et à Tudela. Donc on était assez surpris avec le maire. Ils ont une cathédrale magnifique, ils ont un Porsche Royal. Enfin, on
une bonne surprise, quoi.
Super. On a hâte de les voir.
Mais j'aurais pas cru, oui. Donc, ça a été dit en introduction, vous êtes adjointe au maire chargée du patrimoine. Quelles sont vos missions en tant qu'adjointe au maire chargée du patrimoine ?
Très grosse feuille de route en ce qui concerne le domaine
du patrimoine.
Surtout au Mans.
Voilà. Y a bien sûr le dossier UNESCO, mais on en reparlera, je pense, plus largement en fin d'émission autour de l'exposition. Il y a le dossier Jardin de la Cathédrale, hein, puisque les fouilles de l'INRAP, le rapport est enfin rendu. Donc c'est ce qui a permis aussi de mettre en valeur l'exposition dont on parlera. Donc là, on a un vrai, vrai gros sujet à reprendre au niveau des Jardins de la Cathédrale. Ce sont les deux gros dossiers, UNESCO et Jardin de la Cathédrale. Après, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, ce qui est important, c'est que le patrimoine, et notamment les habitants en priorité, même si on a le droit des visiteurs extérieurs, bien sûr, que les habitants s'approprient leur patrimoine. Et j'aime beaucoup les lieux secrets, mais ça, c'est parce que moi-même, quand j'ai été adjointe au patrimoine, j'ai fait toutes les visites guidées qui existaient sur cette ville, en me disant que je n'y allais pas, par exemple. Que j'avais beau être élue depuis 12 ans, je n'avais jamais fait une seule visite guidée. Pourquoi ? Et donc, voilà comment je travaille. Et à partir de là, je dis aux experts, comment on fait pour que d'autres comme moi, alors que je suis élue, comment on les attire. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis descendue au terme, Romain, parce que j'y étais jamais allée, vu que je ne suis pas historienne. Et quand je suis descendue, je me suis dit, mais pourquoi c'est fermé depuis 20 ans ? Et on m'a dit, mais non, c'est ouvert sur visite guidée. Donc, c'est fermé depuis 20 ans pour moi. Clairement. Et donc, dès l'été dernier, vous avez vu que j'ai fait ouvrir les thermes tous les jours avec une volonté de liberté aussi. Parce que je pense que le patrimoine, ça peut juste aussi être beau et qu'il faut accepter que certains visiteurs viennent juste pour la beauté des lieux et n'ont pas besoin qu'on leur fasse un cours d'histoire. Donc voilà, on en est là. Aujourd'hui, on préserve aussi notre patrimoine. C'est notre grosse mission, hein. On a beaucoup d'églises qui appartiennent à la ville. Donc, notre travail, c'est de préserver et puis de mettre en valeur et puis de dire aux habitants que c'est ouvert. En disant que c'est secret, puisque jusqu'à présent, ils ont l'impression que c'est secret, on arrive à amener des personnes. Donc, des visites guidées aussi dans les quartiers, j'y tiens beaucoup. Moi, j'aimerais que... on l'a fait aux Bruyères récemment. On a eu une visite guidée à Devoix grâce à M. Bertin et M. Ligné. Mais dans les faits, c'est ça. C'est travailler des visites en lien avec les habitants pour qu'on ne fasse pas que de la théorie historique, mais qu'on puisse aussi raconter des anecdotes. Donc voilà, améliorer nos visites et puis aussi y mettre du spectacle vivant. Donc j'ai des projets, je vois bien à Tudela, je trouvais que c'était effectivement, ça pouvait rappeler les cénomanies, mais est-ce que c'est pas ça aussi le patrimoine ?
Bien sûr. Et c'est vrai que la dernière fois, là, lorsqu'on était allé au Beaux-Arts avec Simon, on avait vu de grands tableaux explicatifs sur les thermes romains. Et j'avais trouvé ça pas trop mal parce que déjà le design était pas mal. Et puis en plus, les infos étaient superbes. J'ai trouvé ça, moi qui ne connais pas non plus, parce que j'avoue que.
C'est quelque chose qui est peu, pas peu connu, mais qui est encore,
comme
je pense.
C'est caché sous les Beaux-Arts et que c'est uniquement sur visite guidée, du coup, c'est secret presque. Ouais.
Ce sera ouvert tout l'été, comme l'année dernière, en bien plus ouvert. Et comme vous avez peut-être entendu, l'idée aussi, c'est d'y amener une scénographie. Donc, les gens auront vraiment du 3D. Et là, on espère, on a fini notre cahier des charges. Et j'ai réussi à dire que dans les thermes, on se baignait. Il faut qu'à un moment donné, on puisse imaginer qu'on se baignait.
Bien sûr. Ça va être intéressant. Ça commence quand, du coup ?
Notre objectif, c'est 2023. Ouais. Cet été, on ouvre encore de façon libre. Hein. Les gens pourront y aller. Et on ouvre aussi la tour du Gros Pilier.
D'accord.
Ah oui.
Cet été, il va y avoir de quoi faire.
Tout à fait.
Alors, ma dernière question qui va servir de transition pour la prochaine partie. Comment la ville met-elle en valeur le patrimoine local et surtout le patrimoine de la ville, bien entendu ?
Alors, comment on fait ? Justement, on doit s'améliorer. Monsieur le maire serait là, votre question, il répondrait, mais la cathédrale, c'est quoi les trois choses qu'il faut qu'on sache de la cathédrale ? C'est très compliqué. Parce que quand vous parlez avec des experts, bah non, dire que c'est la plus grande cathédrale de l'Est, etc., machin, etc. On a énormément de mal à communiquer, justement, parce que dès qu'on s'en réfère aux experts, et vous-même, vous êtes des futurs experts, et ben vous savez que vous avez envie de tout dire. Et c'est tout l'enjeu de vulgariser au grand public.
Bien sûr, d'être pragmatique.
Voilà, d'être pragmatique. Donc c'est très, très difficile. Et je pense que c'est pour ça que l'enceinte est méconnue. Parce que finalement, tout le monde la voit, mais personne ne la connaît vraiment. Parce que c'est quoi l'enceinte ? C'est combien de mètres de long ? On a beau répéter, on donne trop d'informations. Au final, les gens ne retiennent rien. Donc, comment on valorise ? Grâce au label Notre Histoire, dont on parlera avec Julie, puisque son exposition, l'exposition portée par Julie, est la première qui porte ce label. Et donc, l'année prochaine, vous verrez... Alors, dès cet été, vous verrez un teaser de Nicolas Boutruche, que vous connaissez bien, qui va présenter ses futures projections de Notre Histoire. Et dès 2023, vous verrez, bien sûr, les 100 ans du circuit. Donc, vous imaginez ce qu'on va voir, je pense. Donc, vous verrez le premier film qui sortira l'été prochain avec le label Notre Histoire, pour que justement les habitants, les visiteurs voient en façon très 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 courte ceux qui ont fait notre ville, parce que de tout temps nous sommes un berceau d'innovation, nous sommes un berceau de talent, il faut absolument que les gens le sachent.
Et Nicolas Boutruche, pour ceux qui ne le sauraient pas, du coup c'est la personne qui a réalisé les projections sur, pendant la nuit des chimères notamment. Il avait fait des super designs, enfin, c'était magnifique, et qui le refera peut-être pour la nuit des...
Alors, cette année, il est en charge du teaser, ouais. Mais effectivement, il a fait Saint-Exupéry, La Fontaine, oui. Et aussi, il a refait Les Anges Musiciens.
Oui, c'est ça, qui était un peu modernisé.
Voilà, ouais. Tout à fait.
On va marquer une nouvelle pause musicale, et cette fois-ci dans le thème, puisqu'on va parler donc de l'exposition. Alors, la musique, j'ai cherché pas mal de musique sur la muraille, un truc en rapport avec la muraille. Il n'y a pas grand-chose, c'est souvent des murailles de Chine, donc j'ai trouvé une chanson qui s'appelle « La muraille » de Da Silva, qui ne parle pas vraiment non plus de muraille, mais qui est plutôt sympa. Donc, et puis il y a le titre « La muraille », j'ai fait ce que j'ai pu. On l'a fait au mieux, mais
en
elle
vrai,
est sympa.
Qui est non, pas
franchement,
mal. Bon, allez,
c'est la moins
ça,
pire,
c'est cool.
Parce qu'il y en a beaucoup,
oui, ça, oui, voilà,
c'est la moins pire. Voilà, on s'écoute Da Silva, « La muraille ».
Tu peux baisser un peu mon...
Qu'est-ce qui nous retient ? Qu'est-ce qui fait que l'on se courbe ? Et l'on se consume sans feu ni flamme ? Éteint, on s'était promis la Chine, et puis rien, on a connu la muraille, on n'en voit toujours pas la fin. Mais pourquoi l'on s'agite ? Pour de tout petits riens, on ne supporte plus la griffe du quotidien. Mais qu'est-ce qui nous retient ? Qu'est-ce qui nous retient encore ? De prendre la fuite seul ou à quatre mains, mais qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous retient encore de marcher un peu, d'aller voir un peu plus loin. Est-ce toi ou moi qui déconne ? Je ne sais plus très bien, je ne te réponds pas, tu ne me demandes rien. C'est le silence qui sonne comme un vieux coup de poing. C'est fou ce que ça résonne quand il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui fait que l'on décline, que plus rien ne tient, que la pente s'incline un peu plus chaque matin. Mais qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous retient encore de prendre la fuite seul ou à quatre mains. Mais qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous retient encore de marcher un peu, d'aller voir un peu plus loin. Mais qu'est-ce qui nous retient ? Qu'est-ce qui nous retient encore de prendre la fuite seul ou à quatre mains. Mais qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous retient encore de marcher un peu, d'aller voir un peu plus loin.
Qui c'est qui est là ?
La percée de l'histoire.
Tiens ! Mais c'est pas vrai !
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules là ou quoi ?
Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa.
Ah ouais ?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou radioalpa.com. et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour sa 12e émission Portrait d'Histoire en compagnie de Sophie Moisy et Julie Bouillet qui vont nous parler dès maintenant de l'exposition, puisque c'est aussi ça l'enjeu de ce soir, parler de l'exposition Au pied du mur, l'enceinte romaine du Mans. Et Salouane, c'est à toi.
Et oui, exactement, et je vais me tourner plutôt vers vous, Julie Bouillet. Et d'abord, avant de parler de l'exposition, une question qui peut paraître un peu bête, mais c'est quoi l'enceinte romaine? Comment la présenter à quelqu'un qui ne la connaît pas?
Alors, l'enceinte romaine, c'est un mur de fortification qui a été édifié durant l'Antiquité tardive, donc au 4e siècle, autour de la ville du Mans qui s'était rétractée. Alors, pour être plus simple, la ville du Mans se construit aux alentours de moins 10, moins 15 avant Jésus-Christ, au niveau de ce qui est aujourd'hui la cité plantagenée sur la butte. Et puis, elle va s'étendre progressivement jusqu'aux environs de la place de la République, pour vous donner un peu une idée, et rue des Arènes, rue du Cirque, un petit peu quartier du Pré. Donc là, elle s'étend sur sa, au maximum, et on est aux alentours de 150 après Jésus-Christ. La ville à l'époque s'appelle Vindinum, et comme plein d'autres villes à la même période, il y a un phénomène de rétractation de la ville, parce qu'il y a une baisse démographique, parce qu'il y a une crise importante au 3e siècle, des famines, une crise monétaire, les invasions dites barbares, etc. Et la ville va se rétracter à nouveau sur ce qui correspond aujourd'hui à la cité plantagenée. Et autour de cette ville plus petite, on va construire cette enceinte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des enceintes, à la même période, il y en a plusieurs qui sont construites dans toute la Gaule romaine, il y en a près de 80 villes. Donc l'enceinte du Mans, c'est pas une spécificité, en tout cas à l'époque. Sa spécificité aujourd'hui, c'est que c'est la seule qui est conservée sur de telles proportions, et surtout c'est la seule qui a des décors tels qu'on peut encore les voir aujourd'hui. Et c'est ce qui en fait vraiment un édifice exceptionnel.
Donc l'idée de création de l'exposition Au pied du mur est née en 2017, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Et elle était en parallèle d'un projet commun de recherche avec l'Université de Nantes et du Mans. Et est-ce que du coup cette exposition c'est uniquement le résultat de ce projet de recherche ou c'est quelque chose qui vient appuyer ce projet de recherche ?
Alors en fait, en 2017, Marcel Monteil et Hugo Meunier, qui sont les deux chercheurs en charge du projet collectif de recherche comme dont vous venez de parler, viennent me voir en disant voilà, on va vraiment retravailler les éléments associés à ce monument exceptionnel, sachant qu'il y avait déjà eu des études importantes menées par Joseph Guilleux dans les années 80 et 90, mais avec la demande, on en reparlera peut-être avec Sophie après, mais avec la demande UNESCO voulue par la ville, il apparaissait important et même nécessaire de réappuyer certaines données scientifiques. Donc il y a eu la constitution de ce projet collectif de recherche qui a associé une trentaine de chercheurs et d'érudits. Et donc l'idée était de faire une exposition qui puisse donner, faire la lumière en tout cas sur les recherches, sachant qu'elles ne sont pas terminées, mais aussi là ça rejoint ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est-à-dire de faire connaître mieux ce monument à la fois aux Manceaux, aux Sartois, et puis le faire découvrir aussi à l'extérieur et expliquer eh bien, aux visiteurs qui viendraient quelle est la spécificité de ce monument.
Et comment on organise une exposition comme ça? Est-ce qu'on attend les premiers résultats du projet de recherche ou on se sert de ce qui existe plus ou moins déjà et on approfondit?
Alors, c'est intéressant. En fait, on a mené les éléments de manière conjointe, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire un synopsis assez rapidement. L'objectif était vraiment de montrer l'enceinte sur le fait qu'elle encerclait la ville et pas uniquement ce mur côté Sarthe, parce que souvent on pense, d'ailleurs tout à l'heure vous avez passé une chanson qui s'appelle La Muraille. Alors La Muraille, souvent on dit La Muraille pour parler de cette enceinte, mais en fait c'est pas du tout le terme approprié parce que c'est un mur qui encercle. Donc on dit tout sauf muraille justement.
J'ai bien fait mon boulot. Non mais c'était exprès pour faire voilà.
Non mais en fait non, tout le monde.
Il
n'y
a pas de musique sur l'enceinte romaine, j'ai cherché.
Tout le monde parle de muraille. En fait il aurait mieux fallu faire le mur, la fortification, le rempart, l'enceinte, etc.
Tout sauf la muraille. Bien joué à moi.
Et donc du coup. Bah, je me suis perdue avec toutes mes bêtises, pardon. Je sais plus ce que je racontais. En tout cas, l'objectif, c'était vraiment de montrer, d'apporter une vision plus complète et pas uniquement sur ce mur côté Sarthe. Et donc, on a cherché à faire une vision et on fait souvent des présentations plutôt côté, aujourd'hui, cathédrale, hôtel de ville, pour comprendre qu'à cet endroit-là, il y avait aussi cette fortification. Alors, 2017-2018, c'est les premières réunions, c'est les premières rencontres. on commence à chercher, on voit les budgets, on voit le financement, les chercheurs, etc. C'est-à-dire qu'au début, on travaille... Moi, j'avais plein d'autres expos sur le feu, hein, donc on travaille petit à petit. Et gros, gros travail qui commence à partir de 2019, quoi. Ouais, 2019-2020, où là, on rentre dans le cœur du sujet. Et du coup, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont sur le dossier, les chercheurs. Donc, ils ont déjà des informations à m'apporter. Ouais. Et après, c'est la sélection des... le synopsis en premier. Une fois qu'on a fait le budget et tout, c'est quand même important. Le synopsis, c'est-à-dire le déroulé de l'exposition. On raconte une histoire, en fait. Hein, donc, c'est quoi les... quels sont les chapitres? Qu'est-ce qu'on va raconter? La liste d'œuvres, c'est pas anodin non plus, parce qu'en fait, des objets datant de l'Antiquité tardive, donc du moment de la construction de l'enceinte, au Mans, il y en a très, très peu, parce qu'on pense que la plupart sont sous la cité Plantagenêt aujourd'hui, donc recouverts au fur et à mesure. Et puis, au moment de la construction de l'enceinte, ils ont creusé des fossés. Et sur toute cette zone qui entoure l'enceinte, il y a eu beaucoup de bouleversements. Par exemple, au moment de la guerre de Cent Ans, il y a eu un fossé défensif qui a été creusé, donc au XIVe siècle. Tout ça fait que il y a très peu de mobilier qui provient du Mans. Donc moi, j'ai dû aller chercher auprès d'autres musées partenaires, auprès d'archives, etc., des mobiliers. Et à chaque fois, je suis associée en fait avec un chercheur spécialiste qui va m'indiquer si c'est OK, sur ce type d'objet pouvait bien être présent au Mans à cette époque.
Justement, comme vous l'avez dit, comment s'est construite l'équipe autour de l'exposition? Est-ce que c'était des historiens archéologues locaux ou des spécialistes, peu importe leur localisation?
Alors, j'ai été entourée donc, de Marcel Montaille et Hugo Meunier, dont je vous ai parlé, qui sont les coordinateurs du projet collectif de recherche. Ensuite, est apparu assez rapidement le fait d'associer Stéphane Augry, qui a fait les fouilles au niveau du chevet de la cathédrale et qui connaissait très très bien le Mans, donc c'était vraiment indispensable. En plus, il représentait l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, avec lequel on a eu une convention pour cette exposition, puisque moi j'ai une vingtaine d'archéologues INRAP qui ont travaillé avec moi sur l'expo. Et après, j'ai Estelle Bertrand de Le Mans Université qui était aussi très très importante pour toute la démarche UNESCO, patrimonialisation, etc. Donc ça, c'est mon comité rapproché. Et puis, donc, comme je vous le disais, d'autres chercheurs. Alors, qu'on rencontre, il y en a beaucoup qu'on connaissait déjà, qui travaillaient déjà sur le PCR et avec les spécificités. Voilà, ça se passe comme ça.
Et cette expo, elle est donc divisée en 5 parties, si je ne dis pas de bêtises. Et comment elles sont faites, ces divisions? Est-ce que c'est chronologique, thématique? Est-ce que c'est une partie histoire, une partie archéo?
Non, ça a été assez chronologique. L'idée, je rejoins aussi Sophie dans ce qu'elle disait tout à l'heure, l'objectif, c'était vraiment quand même de rendre le propos le plus simple possible. Donc, j'expose l'exposition présente à l'origine, en fait, comment était la ville du Mans avant la construction de l'enceinte. Ensuite, on évoque, donc, dans une première partie, à quoi sert cette enceinte, donc à la fois une enceinte à vocation militaire et aussi une représentation de l'autorité impériale. Là, il y a une petite séquence sur la datation qui est importante parce que c'est vraiment un côté inédit en termes d'information. La seconde partie est consacrée au chantier de construction. Comment les matériaux qui ont été utilisés, comment ils sont assemblés, les outils, quelle taille elle fait, combien de tours, enfin des choses, et puis les décors. La troisième section, moi je la trouvais importante, c'est évoquer la vie quotidienne durant l'Antiquité tardive. En fait, souvent quand on évoque la vie quotidienne, pour l'époque romaine, hein, je peux dire, on connaît très très bien les premiers, deuxième siècle, troisième siècle un petit peu. C'est vraiment ce qui est présenté dans le parcours du musée permanent actuellement. Mais par contre, sur la période Antiquité tardive, c'est comme le début du Moyen-Âge. C'est des périodes qui, d'un point de vue archéologique, ont livré beaucoup moins de mobilier. Et souvent, ils sont un peu les parents pauvres dans les musées. Donc là, c'était important pour moi de valoriser cette époque et d'expliquer parce qu'il y a des vrais changements dans les modes de vie, à la fois dans les manières de se vêtir, dans les modes de consommation, mais aussi dans les pratiques funéraires. Donc on évoque toutes ces choses-là. Et les deux dernières sections sont, à mon sens, les plus originales parce qu'on parle de l'enceinte romaine. Et on aurait pu arrêter l'exposition à voilà comment on vivait à l'époque romaine, le chantier de construction. Et l'idée était justement dans cette exposition d'aller plus loin et de montrer que cette enceinte, si elle a résisté, si elle est toujours présente aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été intégrée à un urbanisme, parce qu'on s'est installé dessus, on a réutilisé les tours pour différents usages, comme par exemple des chapelles à l'époque médiévale. Il y a des hôtels particuliers qui se sont installés dans les tours côté Sarthe à partir de l'époque moderne, etc. Et puis à un moment donné, elle est devenue complètement invisible, on ne la voyait plus du tout. parce que toute la ville s'était installée autour et dessus, mais elle était malgré tout présente. Et lorsque, au début du XXe siècle, les érudits locaux commencent à s'intéresser à l'enceinte, même dès le XIXe d'ailleurs, il y a des dessins, des relevés, on a des plans anciens qui montrent que Arcisse de Caumont est venu et en parle dans ses cours. Et alors bon, bref, faut venir voir l'exposition, mais il y a plein d'érudits qui en parlent, et jusqu'à Joseph Guilleux, des grands aménagements sont opérés en fait à partir des années 1970. C'est le quai Louis Blanc tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'enceinte en fait réapparaît. On est dans une période aussi de valorisation du patrimoine. 1980, c'est l'année du patrimoine. Et l'enceinte devient objet promotionnel, touristique, de patrimoine. Et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'elle a, entre sa vocation militaire d'origine, elle a changé de fonction, mais elle est toujours présente et toujours symbole de la ville.
Au final, l'exposition ne revient pas sur l'enceinte qu'à la période romaine. C'est vraiment son évolution avec la ville.
Exactement. Ouais, c'était vraiment important. Et on a fait pour ça aussi, et c'était un projet en plus presque de l'exposition. On a fait une restitution 3D avec une société qui justement, côté donc façade orientale, côté aujourd'hui cathédrale et palais comtal, on voit une évolution à travers 6 dates, 6 périodes clés jusqu'à donc, un moment où on voit l'enceinte toute construite, toute belle, et puis progressivement les bâtiments qui s'installent, le fossé défensif au Moyen-Âge, donc au moment de la guerre de Cent Ans, jusqu'à aujourd'hui où en fait on la discerne toujours, hein, pour les personnes qui sont curieuses. Lorsqu'on monte les escaliers du Pont-Neuf, à gauche on a un morceau de l'enceinte romaine intégré avec d'autres éléments, d'autres édifices.
Et justement, cette restitution 3D, est-ce qu'elle sert aussi à adapter le discours du coup de recherche universitaire pour, je sais pas, un public enfant par exemple, ou...
Alors, l'exposition, elle se veut vraiment accessible au plus grand nombre. Donc, dans le travail qui a été mené avec... donc, moi, j'ai récupéré la matière scientifique. Mmh. Je rejoins un peu Sophie, hein, les experts, c'est super, mais l'objet...
Experts, c'est super.
Nouveau slogan.
En tout cas, c'est très bien de travailler avec des spécialistes, très, très important, mais moi, j'ai dû mener un gros, gros travail de vulgarisation et d'accessibilité, parce que l'exposition, l'objectif, c'est que ce soit pas une exposition faite uniquement pour les savants. Donc on a travaillé de différentes manières, et notamment avec mon collègue Jérôme du service des publics. Donc moi j'ai fait une première rédaction de texte que j'avais déjà bien, parce que j'ai un côté assez pédagogue, donc j'avais déjà bien comment dire, diminué l'information de départ, hein. C'est aussi un travail de concertation, de discussion avec les archéologues, avec les chercheurs. Enfin, je leur avais dit dès le départ, hein, j'avais posé les bases.
Trouver des compromis.
Oui, ouais. Parce qu'en fait, c'est pas simple, parce qu'ils ont toujours peur qu'on ne dise pas bien ou pas assez. Ils avaient droit à la relecture de tous nos textes, etc. Mais c'est quand même nous qui avions le dernier mot. Ça, c'était aussi le point important. Et puis, donc, Jérôme, il a fait pour cette exposition-là, et moi, je trouve ça super, il a fait une relecture auprès de personnes extérieures. Donc, il a fait relire à une dizaine de personnes qu'il connaissait de droite et de gauche, avec vraiment des profils très différents, qui ont apporté, en fait, leur regard en disant, bah là, c'est pas compréhensible, ou bon, pour nous lancer des fleurs, ils nous ont dit qu'en règle générale, c'est quand même plutôt pas mal, on avait plutôt bien travaillé, mais c'est vrai que des moments sur des termes ou des mots, ça nous a permis de repenser, de retravailler, ou une idée qui n'était pas claire. Et donc, c'était la première fois qu'on le faisait. Ça sera certainement pas la dernière, parce que ça rejoint aussi ce que disait Sophie sur l'implication des citoyens, mais c'est aussi impliquer les personnes autour de... Parce que souvent, quand on a la tête dedans, ben, c'est un peu difficile en fait, de prendre le recul. C'est pour ça qu'une expo, effectivement, je suis commissaire générale, mais vous avez bien compris qu'il y a plein de personnes déjà d'un point de vue recherche, mais au sein de l'équipe des musées, j'ai aussi plein de personnes qui ont travaillé avec moi pour réussir à mener un projet qui, à la fin, soit accessible vraiment au plus grand nombre. Pour les enfants aussi, enfin, pour terminer, il y a dans l'exposition des petits dispositifs de jeu, il y a beaucoup d'illustrations, ça c'était aussi très très voulu, c'est-à-dire que l'œuvre de l'exposition c'est l'enceinte, mais l'enceinte elle est dehors, donc comment on met en place cette enceinte à l'intérieur dans une salle d'exposition de 300 mètres carrés. Donc j'ai travaillé avec une scénographe qui a apporté un certain nombre d'idées, mais aussi je crois énormément à l'illustration dans les musées d'archéologie et d'histoire, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait passer la vie. Donc on a travaillé avec un super illustrateur, et ces illustrations permettent vraiment de comprendre en fait les outils, les habits. Sinon, les objets dans une vitrine, c'est bien, hein, mais c'est pas forcément toujours très compréhensible.
Et puis là, c'est vrai que c'est ludique, parce qu'il y a, on peut toucher les matières, il y a les petits puzzles, des petits jeux avec les motifs. Donc c'est pas que pour les enfants. enfants parce que j'ai vu aussi. Enfin, après, je pour les grands enfants.
Mais non, c'est hyper intéressant.
Effectivement, en fait, on s'aperçoit que en général, c'est un peu comme les dispositifs pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on met en place des choses avec un objectif d'un public qu'on va cibler, mais on se rend compte qu'en réalité, tous les publics s'y retrouvent et il n'y a pas que des enfants clairement qui jouent sur les petits jeux. Et tant mieux, parce qu'en fait, c'est fait pour tout le monde.
Ouais. C'est ce qui rend la chose hyper intéressante. Ça. Enfin, c'est l'exposition donc dure jusqu'au 8 janvier 2023, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous avez encore largement le temps pour aller la voir. On peut peut-être aussi finir sur...
Oui, une dernière question pour toutes les deux, justement. Est-ce qu'on connaît l'impact de cette exposition sur la ville et sur le dossier de candidature UNESCO ?
Bah, pour l'instant, on ne connaît pas encore totalement parce qu'elle vient d'ouvrir.
Enfin, oui, c'est vrai. Oui. C'est un objectif, évidemment.
Après, oui, c'est important pour nous. C'était important de faire cette exposition, comme je le disais, pour le public, pour mieux appréhender ce monument. Et on espère vraiment que à la fois les populaces, enfin, les locaux et aussi les touristes vont venir et vont se l'approprier. Mmh. Surtout que les musées sont devenus gratuits maintenant. Mmh. L'exposition, elle est longue. Ce n'est pas un hasard. C'est que c'est un gros travail qui a été mené et qu'on veut vraiment qu'un maximum de personnes, notamment des écoles, etc., puissent en profiter. Et évidemment, l'objectif aussi, c'est de montrer bien que derrière, il y a de la matière. Et en plus de l'exposition, on a un catalogue à réaliser avec de nombreux auteurs qui se veut aussi un ouvrage maintenant de référence sur l'enceinte romaine et qui, je l'espère, aidera évidemment pour le dossier UNESCO. Mais je laisserai Sophie compléter.
Bah, c'est tout à fait ça. Hein. C'est on va dire que c'est la première fois qu'on a, Jules vient de le dire, un catalogue qui est accessible au plus grand nombre, qui reprend les dernières recherches qui ont été menées sur l'enceinte. Il y a également un hors-série Archaeologia qui nous permet d'avoir un rayonnement national puisque, certes, on va le trouver au Musée du Mans, mais ça reste Archaeologia. Et Julie ne l'a pas dit, mais elle l'a sous-entendu, énormément de conférences, de rendez-vous autour de cette exposition. Le Pilier Rouge et le Service Patrimoine a été évidemment associé aussi. Vous avez l'exposition de M. Guilleux. Donc, si vous êtes curieux, allez-y parce que vous allez voir quand même que c'est bel et bien grâce à des passionnés qu'on a sauvé certains bijoux de cette ville. Donc c'est aussi remettre à l'honneur ces précurseurs qui nous ont permis aujourd'hui moi je me sens un peu héritière de ce dossier, donc on va le mener, le dossier UNESCO. On a un comité scientifique qui finalement est très similaire aux personnes que vous a présenté Julie, donc qui sont des gens qui sont passionnés et notre objectif avec le dossier UNESCO, c'est que justement l'enceinte romaine, et c'est super que vous fassiez une émission là-dessus, devienne vraiment un bâtiment emblématique de la ville. Il faut qu'on arrive à montrer que cette enceinte, voilà, elle est connue de tous. Il faut qu'on arrive à vraiment, vraiment faire des choses autour de l'enceinte. Et c'est en lien aussi qu'on va associer le tourisme et ma collègue en charge, Madame Amounou, pour que justement, on ait aussi les petits gadgets qui vont bien. Alors, vous en verrez au musée, puisque ça a quand même existé, hein, Julie en présente. Mais il faut qu'on aille encore plus loin.
Surtout qu'elle a tout pour l'être, parce que, oui. Voilà, on le voit bien. Et à travers cette exposition, donc, on vous invite encore une fois à aller voir. Vous avez choisi, on va passer au portrait d'histoire juste après, mais vous avez choisi, Sophie Moisy, une chanson, Polar de Tilassine. On va s'écouter donc cette chanson juste avant de revenir sur le portrait d'histoire. Quelques petites questions historiques, pas bien compliquées, et puis on se retrouve donc. C'est rien de bien compliqué, franchement, normalement, ça sera très très bien.
c'est qui est là ?
La percée de l'histoire.
Tiens !
Mais c'est pas vrai !
Ah, c'est le rendez-vous des glandus, là, ou quoi ?
Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa.
Ah ouais ?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour sa 12e émission Portrait d'Histoire en compagnie de Sophie Moisy et Julie Bouillet. Et on va maintenant passer à notre dernière phase de l'émission, le Portrait d'Histoire.
Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout.
Le Portrait d'Histoire.
Un petit mot ?
Merde.
Voilà. Et d'où venez-vous ?
Merde.
Très bien.
Alors évidemment, on espérera un petit peu moins de... Enfin, des réponses différentes que ce générique. Plus élaboré et plus, peut-être moins vulgaire. Si vous étiez un personnage historique, on commence avec Sophie Moisy.
Un personnage historique, je sais pas. Moi, je suis plutôt littéraire qu'historique. Disons que je sais pas si j'aurais envie d'être quelqu'un, mais j'aurais adoré discuter avec Sartre.
Intéressant.
Ah ouais. Ouais.
Julie.
Ah bah moi je parlais de Simone de Beauvoir. Okay. On est hyper d'accord.
Parfait.
Si vous deviez vivre à une période de l'histoire.
Bah je dirais la même chose quoi. Hein. J'aimerais bien être plutôt dans les années 50, voilà, oui. Oui.
Moi ça serait les années 20, je pense. Ou l'époque romaine, ça c'est mon.
Ah oui,
ah oui. Très...
C'est intéressant, les deux époques sont intéressantes. Si vous étiez un monument historique.
Bah, l'enceinte romaine du Mans, évidemment.
Au hasard.
Moi, le Mont-Saint-Michel.
Ah, le Mont-Saint-Michel.
Pourquoi le Mont-Saint-Michel, la Normandie ?
La Normandie.
C'est ma région, je suis à côté.
Chaque Normand dira
le
Mont-Saint-Michel.
C'est mon emblème.
C'est vrai que ça, c'est magnifique.
Si vous étiez un costume historique, c'est un petit peu plus compliqué.
Un costume historique. Ah bah moi, j'ai souvenir quand j'étais jeune ici au Mans, donc on parlait des cénomanies tout à l'heure. Oui. Et bah j'ai souvenir d'avoir des robes médiévales, ce genre de choses. Et donc, je me suis promenée vers 14-15 ans. Donc, ouais, pourquoi pas. Je les ai encore d'ailleurs, elles sont jolies.
Ah, on faudra les sortir à une occasion.
Et moi, une robe années 20, vraiment en mode.
On reste dans les années 20.
Ouais.
Si vous étiez une invention historique.
Historique. Si Julie a une idée, je laisse d'abord.
L'équerre d'Arpenteur. Elle est présentée dans le musée.
Okay. Ça aide. Je ne saurais dire.
On a eu tout. Hein. On a eu. Bah, pas plus tard que la semaine dernière avec Stéphane Belsor. Le téléphone aussi.
Le sonographe. Enfin, pour écouter de la musique.
Phonographe.
Ouais. Oui, je sais jamais.
Ouais. Phonographe.
Gramophone.
En fait, le truc pour écouter de la musique.
Dans les années 20.
Dans les années 20.
Et dernière question, si vous aviez un super pouvoir, donc là, c'est pas forcément. Enfin, voilà. Si vous aviez un super pouvoir. À la déconcentre d'histoire. Ça peut être en rapport avec l'histoire sur certains points. J'en pense pas trop, mais
on a eu le temps.
Non, bah,
justement, on voulait faire la comparaison.
Ouais, le voyage dans le temps est pas mal. Non, moi, je suis un petit peu terre à terre. Moi, j'aimerais bien que, bah ouais, si j'avais un super pouvoir qui sert aux autres et qu'on soit tous, on va dire, heureux, en capacité d'avoir ce qu'on a besoin pour vivre, pour pas plutôt vivre et pas survivre. Voilà, donc la paix sur la terre, enfin voilà, des choses un peu utopiques aujourd'hui.
J'ai failli dire ça aussi. Mais alors, du coup, une cape d'invisibilité.
Ah, c'est on l'a jamais vu.
Non, on l'a jamais vu. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais, c'est une réponse intéressante.
Intéressant.
Merci, parce que je vois que oui, le temps a complètement filé. On a eu le temps d'aborder à peu près, de manière générale, tout ce qu'on avait à dire. En tout cas, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il faut absolument aller voir cette exposition qui est gratuite en plus. Mm-hmm. Donc, c'est l'occasion pour toutes et tous d'y aller. Elle se situe au Carré Plantagenet, donc c'est en plein centre-ville du Mans. Enfin, en tout cas, vers les Jacobins, pour ceux qui verraient pas. Éventuellement, ouais, le pâté.
T'as pris vraiment large. Là, hein.
Très large. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est au Mans et il faut absolument y aller. Vous verrez l'enceinte romaine, et non pas la muraille, l'enceinte romaine, sous toutes ses couleurs et sous toutes ses formes. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. Merci à toutes les deux, Sophie Moisy et Julie Bouillet, d'avoir accepté notre invitation. C'était super intéressant. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Portrait d'Histoire, cette fois en compagnie de Vincent Coriol, qui nous parlera de, de son livre. Donc,
Le Maine et les Plantagenêts.
Le Maine et les Plantagenêts, exactement. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libre la nation !
Libre la nation !
Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faudrait se groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit groupir !
But alors, you are French ?
Et toc, remonte ton slibar, Lothar.
Mais si ! Un sarrasin !
Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.